Chapitre 1. Abraham et l'appel de Dieu. En chemin vers un pays inconnu. C'est par la foi qu'Abraham, obéissant à l'appel de Dieu, partit pour un pays qu'il devait recevoir en héritage et se mit en chemin sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il séjourna dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, hérités comme lui de la même promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà comme mort, sortit une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que les grains de sable innombrables qui sont sur le bord de la mer. Hébreux 11, 8-12. C'est par ces paroles, dont on peut admirer la simplicité et l'émotion solennelle, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous décrit la foi d'Abraham, une foi forte et généreuse que d'innombrables générations de croyants ont considérée comme le modèle, le paradigme de la réponse de l'homme à l'appel de Dieu. Ce texte nous permet d'entrer directement dans le vif du sujet, car la foi, c'est cela essentiellement, la réponse à un appel que Dieu adresse à l'homme, le consentement à une invitation qui exige l'engagement de toute une vie. Trop souvent, on réduit la foi à l'adhésion à des vérités que l'on perçoit dans la pénombre. Certes, la foi est cela aussi, nous y reviendrons. Mais elle ne se réduit pas à une adhésion intellectuelle. La foi est un acte beaucoup plus noble et généreux. C'est ouvrir son cœur, son intelligence et sa vie. La foi engage toute la personne, l'intellect et la volonté, l'agir, les relations interpersonnelles. Par certains aspects, la foi est comme l'amour de celui qui accueille dans le plus profond de son être la personne aimée, avec tout son mystère et toute sa richesse. De même qu'Abraham, ceux qui s'aiment se mettent en chemin, sans savoir où ils vont. Ils séjournent dans une terre étrangère, ils partagent une tente précaire. Sans ce saut dans l'inconnu, dicté non pas par la superficialité d'un jugement acritique, mais par l'ouverture de l'âme et le pressentiment qu'une promesse s'accomplira, il n'y a pas d'amour. Et sans cette ouverture de l'âme, sans le don de soi dans une relation personnelle, il n'y a pas vraiment de foi. Il y a peut-être une croyance, mais cela c'est autre chose. Temps de préparation. Voilà donc qu'Abraham se met en route, partant pour un pays inconnu. Les sources de l'histoire patriarcale sont anciennes. Lorsqu'elles prendront la forme littéraire qui nous est parvenue dans les récits bibliques, plusieurs siècles seront passés. Leur souvenir a été transmis d'une génération à l'autre dans des vieux récits de clans. Histoire de parenté, tradition sur les origines et faits marquants, amitié et inimitié, dans des explications sur les usages et coutumes, dans les souvenirs liés à des antiques lieux de culte, dans des fragments de poésie, toute une mémoire collective qui s'est transmise d'une génération à l'autre. Le récit biblique est riche en couleurs. Tel qu'il nous est parvenu, il est enrichi sans doute par l'approfondissement et la réflexion à la lumière de l'histoire d'Israël, et par la conscience toujours plus claire de la relation particulière du peuple élu avec Dieu. Mais on peut faire confiance aux traits essentiels du fond historique. La meilleure connaissance que nous avons aujourd'hui de l'Orient ancien, les découvertes archéologiques, les archives administratives, des milliers de tablettes cunéiformes, ont établi des certitudes sur l'ancienneté de ces sources et la valeur de leurs témoignages. Tout en arrière-plan culturel et législatif de l'Ancien Orient s'est dévoilé petit à petit, dans lequel s'insère très bien le récit biblique. Si l'on a transmis fidèlement des coutumes et des lois qui, à l'époque de la rédaction des documents bibliques, avaient disparu depuis longtemps, il est probable que l'on ait gardé aussi fidèlement la substance des récits. Ce qui est le plus marquant dans le récit biblique est le sens religieux, qui, depuis les plus anciennes traditions, a été attribué à la migration du clan d'Abraham. La Genèse nous raconte en fait deux départs d'Abraham, deux épisodes bien distincts par lesquels sa vocation s'est précisée. C'est tout d'abord le père d'Abraham, Térah, qui, avec tout son clan, quitte la ville de Ur en Chaldée. Il s'agissait de l'une de ces familles issues des groupes semi-nomades de souche araméenne qui, quelques siècles auparavant, s'étaient fixés dans le sud de la Mésopotamie, se faisant employer comme éleveurs, soldats ou caravaniers. Il est possible que l'origine de cette migration soit due à des troubles d'ordre religieux et politique à la fois. Peut-être l'obligation de reconnaître la souveraineté du dieu Marduk au-dessus des dieux locaux. Une ancienne tablette cunéiforme nous informe que dans les années qui précédèrent l'avènement d'Amourabi, le grand roi législateur babylonien, probablement contemporain d'Abraham, 18e siècle, il y eut un grand massacre à Ur. Quoi qu'il en soit, la famille de Térah renoue avec la vie semi-nomade et se met en route en direction du pays de Canaan. Mais arrivés à Haran, ils s'y établirent. Le jeune Abraham dut vivre cet événement comme une séparation difficile, tant sur le plan matériel que psychologique. La ville de Ur avait exercé son hégémonie sur la basse Mésopotamie pendant plus d'un siècle, à la fin du deuxième millénaire, et avait vu l'épanouissement d'une civilisation très florissante sur le plan politique, économique et religieux. À l'époque d'Abraham, elle était sous la domination babylonienne, et, si sa puissance économique et politique n'était qu'un souvenir, elle était loin d'être une bourgade insignifiante, et devait conserver, dans les structures sociales et dans sa mémoire historique, les vestiges de son glorieux passé. Ce premier départ constituait donc une rupture avec une vie tranquille et facile. Se mettant en marche avec le clan de son père, Abraham allait affronter les restrictions et les incertitudes de la vie nomade, les privations et l'absence de confort. Mais c'est justement cette situation de précarité qui lui offre l'occasion de vivre le détachement matériel et spirituel et de goûter à cette liberté d'esprit sans laquelle il est pratiquement impossible d'entendre l'appel de Dieu. La solitude des grands espaces, la simplicité et la sobriété de la vie pastorale le disposeront à être sensible à la voix divine et à y ouvrir son cœur. Cette première migration est comme une phase de préparation. C'est ainsi que Dieu procède habituellement. L'appel de la foi n'est pas une lumière qui soudain brille et éclaire d'une manière irrésistible l'intelligence et le cœur. Rares sont les conversions comme celle de saint Paul, dans lesquelles Dieu intervient avec sa puissance et ses droits absolus pour s'attacher une âme à lui. Habituellement, le maître de l'univers agit avec les hommes en s'adaptant à leur nature. Dieu parle à l'homme le langage de l'homme. Avant de faire briller sa lumière dans un cœur, il s'y insinue par des touches légères. Il se sert des événements minimes et en apparence anodins pour susciter une réflexion, une inquiétude, pour éveiller la soif ou la nostalgie de quelque chose d'absolu. Chaque âme éprouve un jour ce genre d'expérience. Pour certains, c'est peut-être le pressentiment d'une transcendance, l'impression d'entrevoir un sens dans l'enchaînement des événements. Pour d'autres, le sentiment que quelque chose manque dans leur vie, comme un vide que l'on a du mal à expliquer. Pour d'autres encore, c'est l'appel à une plus grande générosité qui s'insinue dans le cœur et invite au don de soi. Appel au dépassement, à se remettre en cause, à donner une nouvelle orientation à ses aspirations et à ses projets. Invitation à sortir de soi-même et à quitter cette sorte de prison où parfois l'on s'enferme. C'est en tout cas toujours sous l'aspect d'une exigence plus grande, car l'amour, s'il est vrai, est exigeant, que l'appel de Dieu se manifeste. Et c'est souvent là, dans ces moments fugaces, que tout se joue. On peut ouvrir son cœur ou le fermer. Car il peut arriver que le regard de l'amour se soit affaibli et que l'on rejette ses appels avec superficialité, les considérant comme insignifiants ou illusoires. Les raisons de ce repli du cœur peuvent être diverses. Parfois, le cadre de vie lui-même, l'entourage, l'héritage agissent comme un écran à travers lequel les rayons de la grâce passent difficilement. Ces situations sont de plus en plus fréquentes aujourd'hui et constituent, pour ceux qui ont reçu la lumière de la foi, un appel à la responsabilité, à ne pas garder pour eux ce trésor. D'autres fois, les événements de la vie, les causes extérieures, peuvent engourdir, voire paralyser l'âme, événements douloureux qui obscurcissent le regard et enferment le cœur dans un brouillard de tristesse. Cependant, le plus souvent, ce premier dialogue de l'âme avec Dieu, prémisse d'un appel, d'une vocation, peut devenir inaudible pour des raisons plus ordinaires, dont on n'est peut-être pas entièrement conscient, mais dont on porte plus ou moins la responsabilité. L'insouciance d'une vie confortable qui engourdit et coupe les ailes de l'amour, le refus habituel d'ouvrir son cœur par manque de générosité, les soucis du monde qui étouffent les bonnes inspirations. Et, disons-le, ce manque de lucidité, bien fréquent aujourd'hui, qui fait que l'on se contente trop facilement du provisoire et de l'immédiat et qu'on ne sait plus juger de ce qui est essentiel et permanent. C'est pourquoi, quand ces inquiétudes divines s'introduisent dans l'âme, il faut se donner les moyens de les discerner avec loyauté, car l'enjeu est important. C'est le moment de recueillir ses sens pour une réflexion sereine, de chercher peut-être le conseil d'un ami, de faire preuve aussi de courage pour déraciner les obstacles intérieurs et les égoïsmes personnels qui empêchent la lumière de se frayer un chemin dans l'âme. Comme Abraham, il faut être disposé à se compliquer la vie. L'appel. L'appel de Dieu se manifesta à Abraham dans la région d'Aran quelques années plus tard, l'invitant à partir pour un pays qu'il lui montrerait. Et Abraham, prenant avec lui sa famille, ses biens et ses serviteurs, nous dit la Genèse, se met en route, se laissant guider par Dieu. À nouveau, il quitte une situation confortable pour partir où Dieu le voudra. Ni l'ignorance de ce qui l'attend, ni les incertitudes de la vie nomade, ni son âge, déjà avancé, ne le font hésiter. Il obéit à la volonté de Dieu, avec cette détermination et cette sérénité qui sont le privilège des âmes droites. À partir de ce moment, sa vie s'identifie avec sa vocation. Une vie qui ne sera pas exempte de faiblesses et d'erreurs, mais une vie fidèle. Lui-même, il ne verra pas l'accomplissement de la promesse divine. Une descendance aussi nombreuse que le sable de la mer, que les étoiles du ciel, un pays qui sera sa patrie. Il faudra encore plusieurs siècles pour que sa descendance prenne possession de la terre de Canaan. Mais cela ne compte pas à ses yeux. Sa foi est si grande, sa disponibilité si entière, que lorsque Dieu, pour le mettre à l'épreuve, lui propose de renoncer à son fils unique Isaac, en qui se concentrait, dans la petitesse des débuts, l'objet de la promesse, il n'hésitera pas à accepter la volonté de Dieu. Il sait que Dieu est fidèle et qu'il accomplit sa promesse, même si c'est par des voies qui ne sont à connues. Et Dieu, qui ne se laisse pas gagner en générosité, se contente des dispositions de son cœur et lui rend son fils. C'est ainsi que Dieu agit avec ceux qu'il appelle. S'il demande beaucoup, c'est pour rendre au centuple ceux qu'il choisit et qui répondent à son appel. Il les comble au-delà de toute mesure, le 100 pour 1, même dans la vie présente, la certitude de sa présence et de sa bienveillance, dans les moments de doute, cette sérénité que rien ne remplace, qui vient de savoir que sa vie a un sens, que l'on est sur la bonne route. L'appel de Dieu, la foi, la vocation, est une manifestation de la prédilection divine. Bien qu'habituellement rien ne change dans la vie, c'est le regard sur les choses, sur les personnes, sur les événements qui change. C'est comme une lumière puissante qui, s'allumant à l'intérieur de l'âme, permet de percevoir que ce que l'on fait a un sens, que les actions les plus banales peuvent avoir une valeur d'éternité, et que pour ceux qui aiment Dieu, tout concourt pour le bien. Recevoir l'appel de Dieu et y répondre, disait le bienheureux Alvaro del Portillo, est beaucoup plus que tomber amoureux et s'éprendre de quelqu'un. Et ceci, bien que l'amour humain soit quelque chose de très grand et de très noble. C'est beaucoup plus que se consacrer à un travail qui comble toutes les aspirations d'une créature. Et ceci, bien que le travail bien fait soit une réalité noble et bonne, qu'il faut sanctifier et qui nous sanctifie. La vocation n'est pas un état d'âme, pas plus que la simple disposition à s'employer davantage au service de Dieu. Elle n'est pas quelque chose de surajouté qui s'additionne à d'autres devoirs. C'est Dieu qui fait irruption dans l'âme, la marquant d'une empreinte ineffaçable qui donne un sens nouveau à l'existence. La réponse. Lorsque Dieu appelle et que l'on attend un moment plus opportun, ce moment imaginaire s'éloigne en fait, car chaque délai durcit le cœur. Une réponse partielle, tiède, provisoire, ne résout rien, car elle ne fait que prolonger cette période de trouble et d'instabilité par laquelle passent ceux qui sont tant attachés à eux-mêmes qu'ils s'enlisent en s'efforçant de sonder et démêler les complications de leur âme. Certes, il ne s'agit pas de prendre des décisions à la légère, et il est normal d'essayer de voir clairement le chemin. Cependant, souvent, ce n'est pas la lumière qui manque, mais la détermination. Face à l'appel de Dieu, on voudrait atteindre un degré de certitude que l'on n'estimerait pas nécessaire pour d'autres décisions, comportant pourtant elles aussi un risque. Une personne qui exige de connaître la volonté de Dieu de cette façon, presque physiquement, ne pourra jamais rien faire dans sa vie, ni choisir une carrière, ni une fiancée, ni rien, parce que cette certitude physique, il ne l'aura jamais. La réponse est une question d'amour. Il ne s'agit pas de ressentir une émotion, un transport, un élan particulièrement fort. Ce n'est pas au sentiment que Dieu s'adresse, mais à la volonté, qui est la partie la plus noble de l'homme. Le langage que Dieu parle est celui de l'amour et non celui de l'émotion. Et lorsqu'il frappe à la porte de l'âme, il est inutile de s'éterniser à calculer les risques, à chercher des certitudes. Le propre de l'amour est de dépasser l'enchaînement des logiques qui pourraient se prolonger à l'infini. C'est renoncer à vouloir démontrer comme un théorème ce que le cœur, dans son intuition, connaît déjà. Car bien souvent, dans le fond de son cœur, on sait que l'appel de Dieu est réel et que les raisons que l'on y oppose ne le sont pas vraiment. Combien d'hésitations ne sont qu'un problème de générosité. Persévérance et fidélité. L'appel de Dieu se grave pour toujours dans l'âme. On peut y répondre ou non, être fidèle toute sa vie ou rompre ses engagements. Jeter, comme on dit, la vocation par la fenêtre. Mais cela ne change pas cette réalité. Dieu a vraiment appelé. La vocation, on l'a pour toujours, car les dons de Dieu sont irrévocables. À la différence des êtres irrationnels, qui ne sont pas maîtres de leurs actions et de leur destin, l'homme a la possibilité d'orienter librement sa vie et de prendre des décisions qui engagent son avenir pour toujours. Malgré le passage inexorable du temps et malgré les obstacles qui peuvent se présenter sur son chemin, l'homme peut persévérer dans les choix fondamentaux qu'il a faits et être fidèle à ses engagements. Même dans les circonstances les plus défavorables, il dispose en lui-même d'un espace de liberté que personne ne peut lui ravir, car c'est Dieu qui en est la source et le garant. C'est une bien pauvre idée qu'il se fait de l'homme, celui qui se laisse abuser par l'idée, répandue aujourd'hui, que l'homme n'est capable que d'une fidélité à terme, d'une loyauté fragile et d'un engagement équivoque. Quel sens cela aurait-il de dire quelque chose comme « Je t'aimerai jusqu'au 23 juillet » ou « Je tiendrai mes engagements sauf si je change d'avis » Il existe des gens qui ne sont pas, à proprement parler, un exemple dans leur comportement moral, mais qui savent être fidèles à leur entreprise, à la parole donnée ou à leur femme. La fidélité rachète bien des défaillances et bien des erreurs, car elle révèle un cœur qui sait aimer. Elle se fonde sur les ressorts les plus nobles du cœur humain. Des difficultés peuvent se présenter sur le chemin. Des moments d'obscurité ou de découragement face à ses erreurs, la monotonie de situations ordinaires ou contrariantes. Les traditions bibliques font état de ces événements, en général bien peu transcendants, qui tissent la vie d'Abraham. Différents familiaux ou de voisinage, difficultés pour discerner la droite manière d'agir, conséquences fâcheuses de ses propres erreurs et limitations. Si la vie d'Abraham acquiert une dimension qui transcende les époques et se pose comme modèle de tout comportement moral, ce n'est pas par la valeur extraordinaire de ses actions, ni même par le caractère toujours avisé de ses choix pratiques, mais parce qu'il a su, par sa fidélité au plan divin, orienter toute sa vie vers Dieu. Et cette fidélité, à laquelle l'exemple d'Abraham nous invite, sera comme un mur de soutènement, sur lequel beaucoup de personnes qui marchent dans l'obscurité pourront trouver appui.
أكملت الجهاد ومن